Bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins.
Sur la piété filiale repose, Seigneur, le bonheur des sociétés et la stabilité des empires. C'est le tronc et la racine de toutes les autres vertus. Et qui a appris la piété filiale a tout appris.
Le maître dit, à 15 ans, je m'appliquais à l'étude. À 30 ans, mon opinion était faite. À 40 ans, je surmontais mes incertitudes. À 50 ans, j'ai découvert la volonté du ciel. À 60 ans, nul propos ne pouvait plus me troubler. Et maintenant, à 70 ans, je peux suivre tous les élans de mon cœur sans jamais sortir du droit chemin. L'équipe des Nouveaux Chemins, elle, sort tous les jours du droit chemin, et c'est tant mieux grâce à Marianne Chassor, Lucie Tardy, Colomba Grossi et Antoine Ravon, avec Midia Portis-Guérin cette semaine à la réalisation, Nicolas Delmas aujourd'hui à la prise de son, Rémi, Canel et Léo à leur côté, ainsi que celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à vous Géraldine.
Bonjour Adèle et bonjour à tous. Je parlerai donc à 10h51 de l'imaginaire de la greffe, le même et l'autre dans la peau. C'est un essai de Philippe Saint-Germain paru aux éditions Libère. Et
rendez-vous à 10h51. Philosophie chinoise, deuxième temps. Après le taoïsme, hier, en compagnie de Rémi Mathieu. Avant le bouddhisme zen, demain, avec Rémi Éric Romeluer et Joël Toraval, qui jeudi viendra vous initier à la philosophie chinoise contemporaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexis Lavis, spécialiste de philosophie comparée en Orient et Occident, doctorant à l'Université de Rouen, qui vient vous délivrer aujourd'hui quelques préceptes de vie du maître Confucius. Bonjour à vous Alexis Lavis.
Bonjour.
Reconstruire une antiquité utopique, mais être malgré soi un novateur hardi, vouloir conserver sans créer, mais fonder en même temps une doctrine qui dominera la destinée d'une grande société pendant plus de 2 millénaires, professer l'agnosticisme, mais passer pour le fondateur d'une religion, incarner le traditionnalisme le plus conservateur, tout en étant le patron d'une nouvelle couche sociale, tels sont quelques-uns des traits contradictoires qui forment le personnage de Confucius.
On peut dire que Confucius était semblable à une symphonie exécutée par les 8 sortes d'instruments réunis. Quand on exécute une symphonie, les instruments de métal, les cloches, annoncent le commencement, et les instruments de pierre annoncent la fin. Les instruments de métal, annonçant l'ouverture de la symphonie, font commencer les accords particuliers de tous les instruments réunis, et les instruments de pierre, annonçant la fin, font cesser les accords de tous les instruments. Donner le signal au commencement, c'est le propre de la prudence. Donner le signal de la fin, c'est le propre de la parfaite sagesse. La prudence peut être comparée à la dextérité et la sagesse à la force. Supposons que vous tiriez sur un objet à 100 pas de distance. Si vous atteignez le but, c'est l'effet de votre force. Si vous frappez dans le milieu, ce n'est pas l'effet de votre force, mais de votre adresse. Alors Alexis Lavis, qui était Confucius, cet homme contradictoire qu'a décrit le sinologue Étienne Balaz, qui a ouvert l'émission,
ou bien cet homme harmonieux et qui prône lui-même l'harmonie que décrit Mincius, l'un de ses élèves?
Eh bien, je pense que c'est les deux. Si on regarde la vie de Confucius, et on a une petite biographie qui a été écrite par une sorte d'historien qui s'appelle Sima Qian, c'est la première biographie, disons, officielle de Confucius, qui a été rédigée aux alentours du 1er siècle avant notre ère, donc bien longtemps après la mort de Confucius. On s'aperçoit effectivement de quelqu'un qui a vécu une époque troublée, qui a cherché qui a fait beaucoup de choses. Donc là, on a la dimension symphonique. Après, savoir s'il y a une harmonie entre tout ça, je pense. Mais il a été d'abord ministre de la Justice. Il a été subalterne dans l'administration de son État, qui était l'État de Lou. Ensuite, il a eu des problèmes politiques assez graves. Il s'est fait chasser. Et après, il a été conseiller du prince itinérant. Ensuite, il a été éditeur d'un certain nombre d'ouvrages classiques. Ensuite, il a été éducateur. Et enfin, il a été maître, mais vous voyez, il a fait plein d'activités différentes, toujours autour d'un centre plus ou moins révélé, mais avec une vie quand même difficile. On peut dire que la vie de Confucius est une sorte d'échec, parce qu'à la fin de sa vie, il n'y a pas véritablement de mouvement confucéen, de philosophie confucienne, ça viendra bien plus tard. Il a passé sa vie d'épreuve en épreuve et de désillusion en désillusion. S'il termine sa vie comme enseignant d'un petit groupe, c'est parce que précisément la vocation politique qu'il avait, c'est-à-dire d'établir dans la société politique un peu décadente de son époque, de rétablir la tradition de la dernière dynastie royale, Zhou, a pas trop marché, si vous voulez. Donc
l'enseignement de ce qu'on pourrait appeler une sorte de philosophie serait en fait le résultat d'un échec, l'échec de son métier de conseiller du prince.
En un sens, oui, souvent on enseigne parce qu'on n'a pas réussi à l'appliquer dans la réalité. Et puis la philosophie, bon, on pourrait revenir sur la pertinence du mot philosophie ici, mais...
Oui, parce que les textes qui nous restent de Confucius, les entretiens par exemple, ne sont pas d'une grande teneur philosophique.
Non, et puis c'est pas du tout leur vocation. Et puis après, c'est un mouvement qui se constitue en plusieurs étapes. Donc Confucius comme moment inaugural n'est qu'un moment inaugural. Après, il y a un travail de réappropriation, de questionnement, notamment chez ces deux grands penseurs que sont Mincius et Sun Tzu qui interviennent à la génération d'après et qui vont formaliser cette pensée-là. Et ensuite, au 10e, 12e siècle de notre ère, le néo-confucianisme qui va remettre une couche, une sacrée couche, pour formaliser encore plus ce qui va devenir le confucianisme, voilà, véritablement avec le isme lourd. Mais Confucius, c'est d'abord une tentative de préserver une tradition qui est en train de se perdre. Voilà.
C'est ça, il commence à écrire, en tout cas dans les textes qui nous restent, à l'aube d'une grande période de troubles. Il écrit alors que les dynasties sont elles-mêmes en danger. Et alors ce qui se retrouve beaucoup dans ces textes, c'est cette volonté de maintenir l'ordre établi pour, et là on en revient à l'harmonie, effectivement, c'est comme si le changement était signe de décadence et qu'il fallait à tout prix respecter les traditions par peur, en les perdant, de s'ouvrir à une forme de trouble dont on ne se remettrait pas.
Je crois que c'est plus subtil parce que chez Confucius, il y a cette idée que la tradition est toujours à réhabiter à chaque génération. Donc ça, c'est l'inverse du formalisme. Le formalisme, c'est répéter les formes de façon extrêmement crispée. Ce que propose Confucius, c'est de faire de la tradition, qui est un ensemble de rites, de pensées, de musique, de choses comme ça, un espace de formation de l'homme. Et donc à chaque génération, d'où le rôle important de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est s'approprier quelque chose d'ancestral, d'une certaine manière. Il faut se l'approprier, il faut le faire sien. Et le Dao de Confucius, la voie de Confucius, c'est l'appropriation de cette tradition. Comment être soi-même le corps vivant d'un monde. C'est devenu crispé, le confucianisme, et toutes les critiques adressées à l'ordre de Confucius ou des Confucéens, a été cette crispation formaliste.
Mais, notamment par les taoïstes dont on parlait
bien sûr,
hier.
Bien
c'est
sûr.
Le reproche principal qu'ils font justement, soit à Confucius ou aux confucianistes.
Mais la tradition, ça n'est pas, évidemment, ça n'est pas un espace d'expression de soi, ça n'est pas vraiment un espace de créativité. Néanmoins, c'est un espace d'habitation. C'est un lieu qu'il faut habiter et réhabiter toujours à neuf. Et qu'est-ce que c'est que la pensée confucienne? C'est comment on fait pour réhabiter à neuf, sans changer pourtant une virgule, la tradition à chaque génération.
À chaque conduite, sa mesure en fonction de sa place dans la hiérarchie des rites. L'humanité est amour. C'est pourquoi elle est une approche d'autrui. Les devoirs sont en accord avec le principe qui gouverne les êtres. C'est ce pourquoi ils sont mis en pratique. Les rites obéissent à la mesure, c'est ce pourquoi ils sont accomplis. L'humanité doit avoir une demeure, les devoirs doivent avoir des portes. Car si l'humanité n'a point de demeure, elle n'a pas de lieu où résider et il n'y a plus aucune humanité. Si les devoirs n'ont point de porte, ils n'ont pas d'ouverture par où passer et il n'y a plus de devoirs. C'est seulement après qu'il a habité la demeure de l'humanité, grâce à l'accomplissement de ses devoirs, que l'homme de bien peut réellement faire preuve d'humanité. C'est seulement après qu'il a défini ses devoirs, grâce à l'accomplissement des rites, qu'il peut réellement accomplir ses devoirs. C'est seulement après qu'il a organisé les rites en revenant à leurs racines et en perfectionnant leurs ramifications qu'il peut réellement accomplir les rites. C'est seulement après que ces trois conditions ont été parfaitement comprises qu'il peut enfin être sur la voie.
Le texte que l'on vient d'entendre, Alexis Lavis, n'est pas de Confucius, mais d'un penseur confucianiste qui a vécu à la toute fin de la période des royaumes combattants, c'est-à-dire qu'on est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui s'appelle, j'espère que je prononce bien, Xunzi. Voilà, qui s'écrit Xunzi en français. Donc voilà. Effectivement, les prononciations sont très différentes. Et on y retrouve la métaphore de l'habitation que vous employez à l'instant.
Oui, c'est vraiment une porte d'entrée intéressante. Et c'est une phrase d'ailleurs des entretiens, je crois, où il dit lorsque l'homme habite véritablement le rite, il est à demeure. C'est ça, l'espace d'habitation de l'homme, c'est le rite. Ce qui est une pensée très, très, très profonde et très étrange.
Alors le rite, on l'entend comment? Qu'est-ce que c'est un rite ici?
Eh bien, on peut l'entendre de façon assez stricte, c'est-à-dire un ensemble de cérémonies. Mais il faut l'entendre, ce qui est concrètement ce qu'on fait, si vous voulez, mais il faut l'entendre de façon, à mon avis, beaucoup plus artificialiste et totale. C'est-à-dire, il existe pour l'être humain. Donc, on peut dire, l'être humain n'est pas immédiatement au monde. Il doit formaliser les choses. Et soit il le fait consciemment, avec intelligence, en y pensant, et ça devient véritablement le rite, soit il fait plus ou moins n'importe quoi. Et c'est la sauvagerie. Et Xunzi, donc vous parlez de Xunzi, qui est un des, à mon avis, peut-être même le plus grand penseur des rites, qui est un penseur vraiment qui voit l'artificialité du rite. Pour lui, le rite, c'est l'espace, c'est un ornement, c'est-à-dire c'est vraiment un espace de manifestation, comme un quadrillage du réel à partir desquels les choses prennent leur place et donc apparaissent pour ce qu'elles sont. Et le rite est véritablement l'espace où chaque chose prend sa place et où il y a comme une médiation opérée par une forme donnée entre, par exemple, un désir et sa satisfaction, entre un sentiment et sa manifestation. Vous voyez, comment on fait pour dire bonjour à quelqu'un? Mais quelqu'un, c'est toujours quelqu'un de précis. Ça peut être un parent, ça peut être un ennemi, ça peut être un haut dignitaire, ça peut être quelqu'un de plus bas que vous hiérarchiquement. Comment on fait pour dire quelque chose? Vous voyez, il faut y penser, il faut trouver une forme. Et c'est ça, le rite. Le rite, c'est d'abord la forme.
Donc les rites sont bons en soi, c'est-à-dire quel que soit le contenu même du rite ou le but qu'il sert, c'est parce qu'il est un rite qu'il est bon en soi, parce qu'il permet à l'homme de développer son humanité, c'est ça?
Mais c'est même pas que ça permet à... Il y a plusieurs thèses, on va dire. La thèse de Mencius, par exemple, qui est l'autre grand penseur de cette période des royaumes combattants, ça serait effectivement cela. C'est-à-dire qu'il y a une humanité radicale de l'homme et le rite est un espace de formation, comme un tuteur pour une plante. Mais le plan est déjà là. C'est là, il y a une bonté originaire de l'homme et le rite est le cadre de la préservation de cette bonté. Mais pour Xunzi, pas du tout. Pour Xunzi, l'homme est un sagouin à la naissance et c'est précisément pour ça qu'il a besoin d'être éduqué. Et donc le rite, c'est l'espace de création de l'humanité de l'homme. Il n'y a pas d'humanité de l'homme s'il n'y a pas de rite. Et c'est-à-dire pour lui, c'est vraiment ce qu'il appelle la médiation entre le désir et sa satisfaction. S'il n'y a pas d'espace et un espace formel, alors l'homme est un animal parmi d'autres, et encore plus glouton, on pourrait dire.
Mais ça veut dire aussi qu'à la différence du taoïsme dont on parlait hier, ici le but et l'importance accordée au rite vise à distinguer l'homme de la nature. Il ne s'agit pas de retourner dans cette voie unique qui est celle de la nature, mais au contraire de s'en distinguer, si je vous comprends bien.
Ah, et puis on pourrait dire même par définition, c'est une phrase de Confucius, le rite distingue, le rite sépare, le rite met de la médiation. Et ça, effectivement, c'est l'espace de l'humanité. L'espace animal est un espace d'immédiateté. D'ailleurs, même Aristote le définissait comme ça, effectivement. L'animal est immédiatement au monde. Il réagit par le plaisir et le déplaisir. Et l'être humain, il n'est pas immédiatement au monde. Il est, déjà par le langage, par plein de tout un tas de choses, médiatement au monde. Si cette médiation n'est pas pensée, n'est pas comprise, n'est pas travaillée, alors c'est une catastrophe.
Et la notion même d'humanité revient très souvent dans les textes de Confucius et de ses élèves ou des penseurs confucianistes. Comment est-ce qu'il définit ce qu'est l'humanité ?
Ce qui est intéressant, c'est que Confucius ne définit jamais l'humanité de l'homme. Et donc c'est une espèce de... C'est un petit peu comme la ville de Pékin. Vous avez la ville de Pékin, vous avez plein, ça fourmille de partout. Et au cœur de la ville de Pékin, vous avez rien. Vous avez la cité interdite dans laquelle on ne pouvait pas rentrer, mais surtout un grand jardin où il n'y avait rien. C'est un petit peu ça, la définition de l'homme dans les entretiens de Confucius. Vous avez plein de considérations, mais quand vous posez la question « mais c'est quoi l'homme ?», vous n'avez pas de réponse. Sun Tzu et Mencius, eux, vont tenter de définir un petit peu. Mais je pense que ce n'était pas si mal de ne pas définir ou de définir de façon un peu allusive. Et aussi, Confucius n'est pas un philosophe. Donc la question « qu'est-ce que l'homme ?» n'est pas sa question. Mais sa question, c'est comment préserver la tradition des Zhou. Voilà.
Le maître dit, pour pratiquer la vertu suprême, il faut se dominer et rétablir les rites. Qui pourrait un jour se dominer et rétablir les rites, verrait le monde entier s'incliner devant sa vertu suprême. Et pour pratiquer la vertu suprême, sur qui s'appuyer, sinon sur soi-même ? Ne regardez rien de contraire au rite. N'écoutez rien de contraire au rite. Ne dites rien de contraire au rite. Ne faites rien de contraire au rite.
Pourquoi accordez-vous tant d'importance aux funérailles ? Pour ruiner le peuple en frais de toutes sortes ?
Non, Yen Tzu. Pour amener des gens comme vous à la réflexion.
Je réfléchis toujours trois fois avant d'agir.
Deux fois suffisent, Yen Tzu.
Est-ce pour amener le peuple à la réflexion que vous réglez aux funérailles également les bons de douleur ?
Que faites-vous, Yen Tzu ? Vous, un enfant ou un barbare, quand vous pleurez un objet perdu, vous criez et trépignez de façon désordonnée. Et quand vous perdez un être cher ?
Ainsi, afin de calmer la peine et de diminuer l'angoisse, vous voulez que l'on bondisse et soupire un certain nombre de fois en ordre et par ordre. Les hommes, le bras droit découvert et sautant franchement, les femmes, se frappant la poitrine, mais sans que la pointe des pieds quitte le sol. N'est pas fini. Et toujours aux funérailles, vous enjoignez au fils du défunt de vagir à la manière des nouveau-nés, et aux parents lointains, après trois modulations, de ne produire qu'un son plaintif. Ces rires m'approuvent et dénoncent toutes ces absurdités.
Le peuple de Tsi rit de notre antiquité. Le peuple de Tsi ignore que par ces absurdités, je classe les douleurs. J'établis la hiérarchie des parentés, des bons et des hurlements. Je purge l'affliction familiale de tout ce qu'elle peut contenir d'impulsif et de vulgaire. Je ne procède pas différemment pour la joie.
Les copains affligés, les copines en pleurs, la boîte à dominos enfouie sous les fleurs. Tout le monde équipé de sa tenue de deuil, la farce était bien bonne et valait le coup d'œil. Les Katzars avaient fait les choses comme il faut, l'enterrement paraissait officiel, bravo. Le mort ne chantait pas à ce qu'on s'emmerde ici, il prenait son trépas à cœur cette fois-ci. Et les bons hommes chargés de la levée du corps ne chantaient pas non plus Saint-Éloi bande encore. Les Katzars avaient fait les choses comme il faut, le Maccabée semblait tout à fait mort, bravo. Ce n'était pas du tout des filles en tutu, avec des fesses à claque et des chapeaux pointus. Les commères choisies pour les cordons du poil, et nul ne leur criait à poil, à poil, à poil. Les Katzars avaient fait les choses comme il faut, les pleureuses sanglotaient pour de bon, bravo.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h20, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée aux philosophies chinoises. Après le taoïsme hier, c'est du confucianisme que nous parlons aujourd'hui, en compagnie d'Alexis Lavis, à qui l'on doit notamment un choix de texte, l'établissement d'un choix de texte et une présentation sur Confucius et le confucianisme disponible chez Pocket.
Le curé venait pas de camarade, bravo. On descendit la bière et je fus bien déçu. La blague maintenant frisait le mauvais goût, car le morse laissa jeter la terre dessus, sans lever le couvercle en s'écriant coucou. Les Katzars avaient fait les choses comme il faut, le cercueil n'était pas à double fond, bravo.
Alors dans les entretiens de Confucius, hein, les disciples racontent notamment que Confucius avait à cœur d'opter pour la position adéquate face au deuil. Il y a beaucoup de questions et finalement les objections qu'on peut lui faire, eh bien, ce sont à la fois la pièce de théâtre que l'on a entendue avant, c'était une pièce qui date de 1958, réalisée par Gérard Herzog pour la RTF, avec Roger Blin dans le rôle de Confucius, et Georges Brassens dans sa chanson Les Katzars qui lui font finalement les objections les plus évidentes. Certes, les rites permettent à l'homme de devenir humain, mais le caractère trop artificiel de ces rites ne nuit-il pas à cette humanité finalement? Est-ce qu'on ne retombe pas dans une espèce de monde de marionnettes, les pleureuses qui vont exagérer les larmes, au dépens sans doute peut-être d'une authenticité de sentiment?
Et cette contradiction est un dévoiement d'une certaine manière, et Confucius l'a bien vu. L'artificiel, faut vraiment entendre l'art et pas du tout l'artifice au sens du superflu et du non nécessaire. L'art, c'est vraiment l'art de mettre une forme et de porter quelque chose à sa forme, c'est-à-dire là où à sa plénitude de visibilité. Et Confucius disait très bien, mais qu'il s'agissait pas de simuler. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est un passage des entretiens où il dit qu'un vrai roi, et là pour le coup le roi chez Confucius, c'est la figure même de l'homme rituel, il dit, doit éviter toute simulation dans l'air du visage. Oui. Et la sincérité est une vertu décisive du confucianisme. Donc il faut absolument, comme je vous l'ai dit, habiter pleinement les formes. Et donc si vous pleurez véritablement. C'est-à-dire que, et c'est marrant parce que les rites funéraires antiques étaient des rites un peu baroques pour nous. Nous, on est incroyablement timides. Là, il y avait une possibilité d'exprimer sa tristesse, mais de façon plénière, entière, avec un ensemble de règles, et qu'il fallait vraiment habiter. Si vous pleuriez, il fallait pleurer pour de bon. Si on vous dit vos pieds ne doivent pas se lever, c'est parce qu'il fallait tenir dans l'émotion, trouver la forme même de l'émotion. Oui, et donc, on peut tout à fait... D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On le fait de façon un peu sauvage, mais lorsqu'il faut exprimer sa tendresse ou sa tristesse... On l'exprime, exprimer, c'est trouver une forme. Oui. Donc pourquoi ne pas penser une forme sublime?
Eh bien parce que c'est peut-être Confucius qui l'a dit lui-même, hein, pas dans ces termes précisément, mais dans ceux de ses disciples, ce qui finalement donne raison à Étienne Balzaz, hein, qui a ouvert cette émission en disant que Confucius était contradictoire. Il le dit lui-même dans le texte que j'ai lu, qui pourrait un jour se dominer et rétablir les rites, verrait le monde entier s'incliner devant sa vertu suprême. Il y a quand même l'idée de se dominer, d'une domination de soi, qui semble incompatible avec l'expression d'une tristesse absolue.
Certes, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. On n'est pas chez les stoïciens, là.
Voilà, bah alors c'est pour ça, c'est là que je voulais vous conduire. Quelle différence?
Oui. Chez les stoïciens, la voie stoïcienne est une voie individuelle de manifestation et de perfectionnement de soi par soi. Ici, se dominer, ça signifie donner place entièrement au rite. C'est-à-dire, il y a l'espace rituel et il faut se conformer. C'est un conformisme, mais au sens positif du terme. Il faut adopter la forme. Et donc, il faut pouvoir entrer dans le geste. Oui, on vous dit, il faut lever la main de cette manière-là, et ça va exprimer, je ne sais pas, la joie, par exemple. Eh bien, il faut arriver, c'est ça, se dominer, à ressentir absolument la joie en faisant ce geste. Et c'est pour ça, dans le texte que vous avez lu sur la vie où Confucius raconte un peu son chemin, il dit à 70 ans, je faisais ce que je voulais, c'était parfait, mais c'est exactement ça. Oui, à 70 ans, quand il levait la main de cette manière-là, il était absolument joyeux et son geste était parfaitement conforme. Oui. Et c'est ça, se dominer.
Donc la notion même de perfection de soi qui revient quand même souvent. Hein. Il faut que le prince se perfectionne pour atteindre la vertu suprême. Il faut que même que le disciple se perfectionne. Il a vraiment cette notion d'apprentissage long qui conduit à suivre un chemin pour aller vers la perfection. Semblerait inviter à une lecture quasiment individualiste. Hein. Le perfectionnement de soi laisse entendre qu'il y a un individu qui se perfectionne. Or ce que vous dites, c'est qu'au contraire, la perfection de soi n'est pas pensable sans le respect, la conformité à certains rites extérieurs.
Oui, tout à fait. Et c'est là vraiment qu'il faut être prudent avec... voilà. C'est là que la comparaison doit jouer au sens intelligent du terme. il n'y a pas de véritablement d'égologie dans le Confucianisme. D'ailleurs, il le dit très clairement dans les entretiens à son disciple Yan Ruai, qui est un de ses disciples préférés. Et son disciple lui demande qu'est-ce que c'est que véritablement le rite. Et il dit, le rite, c'est l'espace où l'on abandonne son ego. C'est-à-dire pour se conformer à une forme. Et c'est ça, d'abord, il y a le monde comme espace de relation formé, et il faut l'habiter par nos sentiments, par notre manière de vivre, par tout ça. Mais d'abord, il y a la quadrature, il y a d'abord la structure, si vous voulez. Et après, il faut pouvoir, par le sentiment, par notre être intérieur, par nos dispositions intérieures, se conformer à ça.
Ce qui implique le recours à un certain apprentissage. Il y a aussi de nombreux textes sur l'éducation et l'apprentissage.
Ce qui le nécessite. Et là, on comprend effectivement ce que c'est que l'éducation. C'est d'abord l'exemple, et ensuite, comprendre les formes.
Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris.
Beaucoup appris.
Tu parles, j'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Eh ben, ça me fait une belle jambe.
Pas se fier aux apparences.
Eh ben, j'en ai ras-le-bol, je rentre chez moi.
Daniel-san.
Quoi ?
Reviens. Allez, pensez.
D'accord, je pense.
Non. Restez debout. Montrez à moi le mouvement. Poncez par quai, avec grand cercle. Poncez par quai. Maintenant, lustrez voiture, lustrez frotter. Lustrez, frotter. Concentrez-toi, regardez mon œil. Bloquez ta main, pousse à l'intérieur. Lustrez, frotter. Lustrer. Maintenant, peindre palissade. Monter, descendre. Monter. Descendre. Monter. Descendre. Dans autre sens, regardez l'œil. Toujours regardez l'œil. Montrer, lustrer, frotter. Aïe! 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 Montrer, peindre palissade. Aïe! 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 Hey! Montrez maison, gauche, droite. Ah! Aïe! 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 Montrez poncer, parquet. Ah! Aïe! 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 Bien, regardez dans les yeux. Bien regardez les yeux. Demain, revenir.
On a là un exemple concret parfait de la notion de l'apprentissage chez Confucius, avec l'importance du rite, de la répétition du rite à suivre pour s'éduquer soi-même et le respect de l'ordre hiérarchique. C'est un extrait de Karate Kid, le film d'Avil Sen qui date de 84. On a le jeune Daniel Larusso qui décide d'apprendre le karaté avec son jardinier Miyagi. Et en plus, l'extrait sonore le donne bien entendre, cette espèce de répétition douloureuse qui va conduire finalement à la vertu tant cherchée, Alexis Lévis.
Alors c'est pas évident parce que effectivement dans la voie du karaté il y a à la fois du bouddhisme et du confucianisme, ouais. Et les deux ont été assez savamment mélangés. Par exemple, le fait que le maître de karaté ne dise pas véritablement la finalité pour laquelle il doit poncer les voitures, repeindre la palissade et poncer le parquet. Laisser le but un petit peu obscur.
Qui sont en fait les gestes à accomplir. Voilà, mimer le fait de poncer le parquet pour développer le geste de karaté.
Voilà, qui sont un ensemble de parades au karaté. Ça serait plutôt bouddhiste. C'est-à-dire, il ne faut pas fantasmer le but final. Sinon, c'est ça une illusion. Donc, il vaut mieux habiter présentement le geste lui-même sans le surcharger sémantiquement, d'une certaine manière. Dans le confucianisme, ce n'est pas du tout nécessaire. Par exemple, Confucius dit très bien, au début, on s'éveille par l'étude des textes. Or, les textes donnent le sens, donnent la signification. Donc, ensuite, on s'affermit par le rite. Ça, c'est le geste, la répétition du geste. Et on voit bien la fermeté, la sûreté du geste. Et ensuite, on s'harmonise par la musique. Vous voyez, c'est ces 3 étapes de l'éducation. S'éveiller par la lecture des textes, parce que, Confucius le dit, ça développe votre expérience. C'est-à-dire qu'un homme seul, au fond, ne sait pas grand-chose. Un homme qui lit les recueils des anciennes histoires, des anciens poèmes, se nourrit d'une vision bien plus riche que la sienne, et il est plus que lui, il faut toujours être davantage que soi. Ensuite, on s'affermit, effectivement. Et là, il y a le côté karaté. C'est-à-dire, il faut faire 1000 fois le geste pour qu'il soit juste. 10 000 fois, même. Et ensuite, on se repose. On réécoute le rapport entre le sentiment ou toutes ces images qu'on a eues pendant l'étude et le geste. On essaie d'harmoniser les deux. Et ça, c'est la musique. L'accord. Oui. L'accord entre un état intérieur et une forme qu'il faut respecter.
Mais est-ce que ça veut dire que cette forme est forcément sociale ? Puisqu'on insiste sur les rites, sur l'extériorité de cette forme à laquelle il faut se conformer. Et c'est donc un espace qui n'est pas forcément que la nature, ça vous l'avez bien dit, puisqu'il y a l'artificialité du rite. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'il reste ? L'espace social et politique ?
Oui, mais l'opposition entre nature et culture est une opposition très occidentale. Chez Confucius, il ne se pose pas du tout cette question-là. L'homme est de fait un être social. Confucius n'a jamais vu un état du monde dans lequel il n'y avait pas d'homme en société. Donc il ne se pose pas la question de l'origine. Il n'est pas rousseauiste. Il ne se pose pas la question d'un état de nature. C'est pas son problème. L'homme est d'emblée, à la naissance même, pour Confucius, social, puisqu'il naît avec des parents. Donc il y a des rôles. Oui.
Voilà, c'est ça, c'est l'importance de la hiérarchie aussi qu'on entend.
Bien sûr. Donc oui, le rite est foncièrement social et l'être humain est foncièrement social.
Et donc le respect des traditions anciennes et des rites permet de maintenir cet ordre en place. Et ça, c'est un des reproches aussi qu'on a pu faire à Confucius et au confucianisme, qui est une forme de conservatisme. Finalement, il ne faut rien changer, y compris dès lors que les inégalités ne sont pas incompatibles avec une forme de justice. Donc il ne faut surtout pas essayer de réformer une forme d'inégalité, de hiérarchie sociale.
Si, y a évidemment Mincius et des penseurs confucéens, même Confucius aussi, lorsqu'un prince ne tenait pas sa place, il valait mieux qu'il s'en aille. Xunzi, par exemple, dit quelqu'un qui n'est pas d'origine noble mais qui connaît les rites mérite de régner. Quelqu'un qui est d'origine noble et qui ne connaît pas les rites ne mérite pas de régner.
Dans le cas du roi, mais dans le cas des structures familiales et sociales.
Ah, dans le cas des structures.
Chacun est à sa place, n'est-ce pas ?
Il faut que chacun le soit.
C'est ça.
Mais c'est le devoir de tous de l'être. Là, il y a une égalité parfaite. Chacun doit tenir sa place.
Une inégalité ou une égalité ?
Oui, c'est une inégalité. Parce qu'on est dans une société verticale. Mais c'est une égalité au sens où chacun doit tenir son rôle. Donc, si quelqu'un ne le tient pas, qu'il soit en haut ou en bas, il est fautif d'une certaine manière. Le roi a à être roi, le sujet a à être sujet, et chaque place est rituelle, donc chaque place est digne, parce qu'elle a elle-même son propre code éthique, on pourrait dire. Il n'y a pas d'intouchables, si vous voulez. Les intouchables, pour l'Inde, ce sont des gens sans rite, sans fonction, qui ne servent à rien. Oui. Là, dans le monde chinois, tout doit avoir sa place. Donc tout a une éthique de vie rituelle. Donc du coup, il y a une forme d'égalité à ce niveau-là. Parce que ça n'est pas une égalité au sens des biens et des droits, si vous voulez. Mais c'est une égalité au sens où chacun a sa place dans le monde rituel. Chacun a sa place.
Ça, c'est plutôt un argument qui permet de justifier un état de fait que profondément inégal. De dire que l'égalité vient du fait que chacun a droit à sa place. Si la place est bien inférieure à celle de quelqu'un qui est supérieur, on ne peut pas vraiment parler d'égalité.
Oui, mais l'égalité est une injustice sociale dans un monde horizontal. Donc effectivement, pour nous qui vivons dans une démocratie représentative, l'inégalité est une injustice sociale de plein droit. Mais dans un monde vertical, l'inégalité est la structure même du monde. C'est-à-dire, les tâches ne se correspondent pas. Il y a du supérieur, il y a de l'inférieur, mais l'inférieur ne signifie pas moindrement être. Un être moindre, ça signifie, idéalement, évidemment, après, on sait bien comment ça se passe, mais idéalement, inférieur, ça signifie qu'il soutient, qu'il nourrit. Supérieur, ça signifie qu'il voit et qu'il indique une direction. C'est ça le ciel, c'est ça la terre. Oui. Il n'y a pas d'indignité de la terre par rapport au ciel. Il y a une supériorité au sens topographique, si vous voulez. Le ciel, c'est ce qui ouvre un champ de vision, d'où ce qu'on appelle le dirigeant, celui qui indique une voie à suivre. Mais la terre, elle est ce qui permet de soutenir, ce qui permet de nourrir, ce qui permet de structurer une vision, par exemple. Donc, vous voyez, si les choses s'articulent, on peut comprendre l'inégalité. D'ailleurs, c'est marrant parce que Xunzi dit, je crois au chapitre 17, que l'inégalité, c'est la pire des choses qui soient. Mais si on regarde le signe chinois, on s'aperçoit que ce qu'il appelle, ou ce qu'on traduit par inégal, ça signifie plutôt indistinct. Et là encore, je vous le rappelle, le rite distingue, la nature confond chez Confucius. Or, il ne faut pas de confusion. L'homme est un être d'intermédiaire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est signifié dans la langue elle-même. C'est l'homme est entre ciel et terre, et le roi, c'est trois traits horizontaux traversés par un trait vertical. Oui. C'est-à-dire, l'homme, il est entre deux plans. Il doit tenir une place intermédiaire. Il est l'être des intermédiaires. Il est l'être de la médiation, donc il est l'être de la communication. Oui. Donc si on met tout, si tout est ravalé sur le même plan, il n'y a plus de communication.
D'autant que la notion même de hiérarchie implique une notion très forte de devoir chez Confucius, mais n'exclut pas une notion qui est tout aussi importante, qui est celle de l'amour. Et l'image qui est bien souvent utilisée comme modèle de la piété filiale, qui a une place très importante dans les textes de Confucius. Écoutons-en un extrait, alors cette fois-ci c'est dans un texte de Mencius.
Shun travaillait au milieu des champs pour aider ses parents, mais ces derniers ne lui témoignaient nulle affection. L'empereur Yao, qui admirait son dévouement, mit à son service ses enfants, 9 fils et 2 filles, tous ses officiers, ses bœufs, ses brebis, ses magasins, ses greniers. Rien ne manquait. Les lettrés de l'empire se donnèrent à lui en grand nombre. L'empereur voulait d'abord gouverner avec lui l'empire, puis le lui céder entièrement. Parce que Shun ne parvenait pas à faire naître dans le cœur de ses parents des sentiments conformes aux siens, il se trouvait en permanence comme un homme sans ressources, qui ne sait plus vers qui se tourner. Plaire aux lettrés vénérables de l'empire est une chose qui flatte le cœur. Cela ne suffisait pas pour dissiper la peine de Shun. La beauté est une chose qui suscite le désir des hommes. Shun épousa les 2 filles de l'empereur. Cela ne suffit pas pour dissiper sa peine. L'opulence est une chose que les hommes désirent. Shun posséda l'empire. Cela ne suffit pas pour dissiper sa peine. La grandeur est une chose que les hommes désirent. Shun reçut la dignité impériale. Cela ne suffit pas pour dissiper sa peine. Rien de ce que les hommes désirent ne suffit à Shun pour dissiper sa peine. Obtenir l'amour de ses parents était la seule chose qui puisse guérir son cœur meurtri.
La piété filiale est peut-être un modèle pour Confucius et ses disciples, un modèle dont doit s'inspirer même les sociétés politiques, hein, sur l'amour qui peut lier un père à son fils ou un fils à son père. Mais en l'occurrence, le texte que l'on vient d'entendre, Alexis Lavis, insiste plutôt sur le fait que cette demande d'amour du fils envers ses parents qui ne sera jamais accomplie reste un drame. Enfin, c'est quelque chose qui est là, pour le coup, c'est vraiment le sentiment auquel le texte s'adresse.
Mais encore une fois, la pensée de Confucius et le confucianisme bien pensé n'excluent pas du tout le sentiment. Comme je vous l'ai dit, il faut habiter par le sentiment, par l'entièreté du sentiment, une forme, un geste, oui, une parole. Et c'est ce qu'on appelle la sincérité, au fond. Qu'est-ce que c'est que la sincérité? C'est une parole qui est pleinement habitée par un sentiment. Sauf qu'il s'avère qu'il y a eu une grande civilisation avant qui avait structuré un ensemble de gestes et plutôt bien fait. Et Confucius dit que ce serait dommage de perdre ça. Et donc tout notre travail, c'est d'arriver à réhabiter par le sentiment ces gestes pour les rendre véritablement sincères. Voilà. Et ce passage est tout à fait intéressant parce qu'il montre bien le côté radicalement humain. C'est-à-dire, oui, parfois ça ne marche pas, parfois... C'est pas parce qu'on fait tout ce qu'il faut que c'est un sésame et que tout va bien se passer. C'est pas parce que Shun, en plus, qui est vraiment...
C'est une histoire connue.
Bien sûr, c'est très très connu. C'est vraiment l'un des grands rois des dynasties royales en très ancienne. C'est un modèle de vertu. Et c'est ça où il faut se méfier un peu de ce qu'on appelle l'efficacité chinoise. C'est un pays d'efficacité. Non, le rite... Il n'a pas été efficace. Le rite, c'est un geste qu'il faut habiter. Et Shun l'a habité toute sa vie. Il a fait preuve de piété filiale toute sa vie. Il a fait les gestes qu'il faut. Il les a complètement habités par son sentiment. Il n'y a pas eu de réponse, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'il l'a toujours fait. C'est un horizon indépassable. Mais le geste est accompli pour lui-même, pour sa vertu d'expression, pas en vue d'un retour sur investissement.
Par devoir.
Par devoir, mais un devoir bien compris. C'est-à-dire pas le faire pour le faire et pour s'en débarrasser. Le faire pour véritablement... Comme comme au karaté, si vous voulez, il faut faire un beau geste. Mais pour faire un beau geste, il faut avoir l'esprit qu'il faut. Et après, vous pouvez faire un beau geste et rater, et vous prendre un coup de poing, quoi que ce soit. Ça peut arriver, oui. Le monde est comme ça. Mais ça ne dédouane pas de la beauté du rite. Et ce que veut dire ce passage, qui n'est pas facile à comprendre, c'est que ça n'est pas parce que vous habitez pleinement, que vous êtes un être parfait, d'une certaine manière, au sens confucien, c'est-à-dire que vous êtes absolument dans le rite, que tout va bien fonctionner pour vous. On ne fait pas les rites pour obtenir des choses. On fait les rites pour faire des rites. On fait des rites parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on a à mettre une forme, mettre en forme. Oui, tout simplement. Et Confucius a été le premier, par exemple, à dire qu'il fallait écarter toute dimension religieuse du rite. Pourquoi ? Parce qu'on accomplissait les rites, sinon, dans l'espoir d'un retour sur investissement, une espèce de faveur des dieux. Il dit qu'il ne faut jamais faire de rite avec cet esprit-là, cet esprit boutiquier un peu. Il faut faire des rites parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons à donner une forme. Point. Et c'est exactement ce que veut montrer ici ce court texte. Shun est un être rituellement parfait. Il a continué à faire preuve de piété filiale toute sa vie, même s'il savait que jamais il obtiendrait ce retour qu'il attendait, c'est-à-dire l'affection de ses parents. Mais il a continué toute sa vie à être pieux filialement.
Mais d'où vient ce sens du devoir, finalement, qui est si fort et qui, puisqu'il n'y a aucune transcendance dans le confucianisme, d'où vient, peut-être que Confucius ne se pose pas la question, ça, ses disciples peut-être l'ont fait, mais il y a quand même, on ne peut pas s'interroger sur l'origine même de ce sens-là du devoir, pour, ne serait-ce que pour le transmettre et l'enseigner aux générations futures. Est-ce qu'on doit y voir un moyen développé par le confucianisme pour maintenir un ordre en place, et donc le devoir est inquestionné parce que c'est la seule manière de faire en sorte que la décadence n'arrive pas à grands pas, ou est-ce qu'il y a un fondement autre, disons anthropologique ou même proprement moral?
Moi, je pense que lorsqu'on cherche à maintenir un ordre pour maintenir un ordre, on cherche encore une forme d'efficacité. Et ce n'est pas du tout ce que cherchait Confucius. Confucius, je pense, a vu dans cette tradition ancienne, qu'on a largement perdue évidemment, il a vu quelque chose qui lui a plu très profondément. Et ça n'est pas un hasard si Confucius donne souvent l'exemple de la musique. Pourquoi est-ce qu'on aime une note juste, vous voyez ? Et je pense que ça vient de là. Pourquoi l'homme aime l'accord ? Vous voyez ? On aime une note juste. On aime un bel accord. C'est comme ça. Et un beau geste, un beau rite, c'est une manière juste de se tenir et d'être. Vraiment, et je pense, on dit souvent « gen yi », qui sont les deux grandes vertus du confucianisme, « gen », l'humanité, « yi », quelque chose comme la justice. Mais il ne faudrait pas entendre la justice au sens légal du terme, mais plutôt la justesse. Voyez, et ce goût de la justesse, c'est un goût humain. Et un beau rite, c'est juste. Voyez, c'est une parole qui tombe bien, c'est un geste qui tombe bien. Et c'est comme ça. Et là, effectivement, il y aurait un fondement, on pourrait dire, anthropologique. L'être humain est un homme qui aime l'accord, qui est sensible en tout cas à cela. Et le monde rituel est un monde musical, c'est-à-dire un monde de gestes qui concordent.
Difficile alors dans ce cadre de comprendre le rôle que Confucius s'est attribué de conseiller du prince, puisque finalement faire en sorte que le gouvernement puisse s'établir le mieux possible pour un prince ou pour un roi, ce n'est pas une manière d'aller dans le sens de l'harmonie des choses.
Bah si, au contraire, il faut former les chefs d'orchestre. Si vous voulez que le monde sonne juste et que vous avez un chef d'orchestre pourri, ça va être compliqué. Il faut un grand... Confucius est le premier à être conscient que le rôle du chef d'orchestre est central. Et voyez, je pense que on a commencé sur la symphonie, bah on y revient. Et c'est, à mon avis, le modèle le plus juste pour comprendre le cœur du confucianisme. C'est un modèle musical. C'est-à-dire, effectivement, les notes sont des gestes. La société est un grand orchestre et il faut un chef d'orchestre. Effectivement, le tuba, les violons, les altos, ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur partition à jouer, ils ne jouent pas tout. Voyez, donc ça, vous avez là aussi la dimension d'inégalité. Effectivement, par exemple, dans un concerto, le pianiste jouera plus que l'altiste. Voilà. C'est comme ça. Ça n'empêche pas que le tout sonne juste. Oui. Et donc le prince, qui est ici chef d'orchestre, au sens plein du terme, joue son rôle. Et il doit, lui, être éduqué à la musique. Il doit avoir cette vision d'ensemble. C'est pour ça qu'on l'appelait le fils du ciel. Il doit avoir la vision. C'est ça le ciel, vraiment ce qui donne la vision d'ensemble.
Et bien, Suisse lui-même rapporte cette histoire où quelqu'un est allé demander à un gouvernant que faire pour. Le gouvernant demandait à quelqu'un que faire pour retrouver la tranquillité au sein du pays. Et celui-ci lui dit, eh bien, il faudra que tout le monde se donne à une seule personne qui est la seule qui n'aimera pas à faire périr les hommes. On retrouve la notion d'amour ici. Et il dit, tout le monde sans exception se donnera à lui. Prince, ne savez-vous pas ce qui a lieu pour les moissons? Si au 7e ou au 8e mois de l'année la terre est aride, les moissons se dessèchent. Si le ciel se charge d'épais nuages et qu'il tombe une pluie abondante, les plantes prennent leur essor et grandissent rapidement. Qui pourrait les arrêter dans leur croissance? À présent, dans tout l'Empire, parmi les pasteurs des peuples, il n'en est pas un qui n'aime à faire périr les hommes. S'il s'en trouvait un qui eût des sentiments contraires, tous les habitants de l'Empire se tourneraient vers lui et mettraient en lui leur espoir. Et dès lors, les peuples iraient à lui aussi naturellement que l'eau descend dans les vallées.
Oui, cette phrase, en plus, cette phrase de Mincius a une intention stratégique très déterminée. Pourquoi ? Parce que lorsque Mincius arrive, il doit en un sens se justifier ou justifier le confucianisme, puisqu'il est dans une époque où fleurissent plein d'écoles philosophiques chinoises. Et donc, il faut justifier cette espèce d'idée qu'il y a une humanité foncièrement bonne en l'homme aux yeux de, par exemple, des stratèges qui sont beaucoup plus cyniques ou des taoïstes qui ça les intéresse pas du tout cette question-là. Et là, c'est une manière de montrer que, au fond, le gène, donc cette humanité de l'homme, cette bonté de l'homme, eh bien, le ciel y répond. Quelqu'un de bon qui gouverne bien, ben, les gens viennent dans son royaume. Et d'ailleurs, l'intérêt démographique à l'époque de Mincius et la pression démographique est très importante. C'est-à-dire que c'est un état fort, c'est un état peuplé. Et là, il vous dit, mais vous voyez bien que la nature répond à la bonté de l'homme. Donc ça veut bien dire que l'homme est bon par nature, puisque un homme bon qui gouverne selon la bonté fait venir les gens autour de lui. Un homme mauvais qui gouverne au nom de, je sais pas, un égoïsme ordinaire, dépeuple son royaume. Il y a bien la nature répond. Oui. Donc ça c'est la stratégie de Mincius pour justifier, on pourrait dire, en nature, l'humanité ou la bonté originaire de l'homme. Mais après l'amour. Aussi paradoxal que ça puisse sembler, est un des mots les plus fréquents du confucianisme et qu'il associe toujours à la forme. C'est un poème, je crois, de Charles Olson, qui est un poète américain, et qui dit « amour et forme, le même ». Eh bien, Confucius disait la même chose bien longtemps avant lui. Dans un texte du Lidzi, du Traité des Rites, il décrit un certain nombre de rituels faits dans les villages, un certain nombre d'offrandes, et à chaque fois, il dit c'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour. Alors qu'il décrit des choses extrêmement formelles. Par exemple, à un moment donné, un exercice de tir à l'arc. Il dit ça aussi, c'est un acte d'amour. Et vous voyez comment ? Pourquoi ? Parce que la forme est une médiation et que l'amour, c'est la perfection de la médiation. C'est l'accord parfait. Oui.
Notre rite au nouveau chemin s'est terminé avec une chanson. C'est un acte d'amour quotidien.
Je te l'ai, sagesse, je te l'ai.
Sagesse, je te hais, poseuse infatuée, chiure d'aréopage, qui dicte des devoirs et donne des leçons. Tu fais l'apologie des vertus du grand âge et traite de savoir le babil d'un vieux con qui se paie de mots creux, dont l'émotion absente, ça élise peu à peu nos vallées verdoyantes. Sagesse,
je te hais, sagesse, je te hais, sagesse.
Tu n'es jamais sagesse à l'aube des combats, toi tu prends du recul. Tout avance sans toi. Ta bien-pensance hautaine, condescendante aussi, sont les premières traces, les infâmes stigmates de ce mal contagieux qui guette l'homme assis et qui enfle à mesure que gonfle sa prostate. Sagesse,
je te hais, sagesse, je te hais, sagesse.
Ah, ne pas être sage, aimé à la folie, brûlé par les deux bouts son unique bougie. Pour fendre jusqu'au bout, combattre sans répit l'imposture, le mensonge, les faux dévoraciens. Quitte à mourir peut-être, mais à mourir debout. Mourir ivre et repu, ou bien mourir de rire, ou d'un arrêt du cœur qui aurait trop battu, trop aimé, trop souvent. Aimer jusqu'au délire, ou plaisir absolu, mourir d'un coup de sang.
Sagesse, je te hais, c'est Michel Fugain qui chante le décalage entre la pensée de Confucius et la pensée contemporaine occidentale. Un grand merci à vous, Alexis Lévis, d'être venu nous parler de Confucius aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs au volume que vous proposez avec un choix de texte sur Confucius et le confucianisme disponible chez Pocket. Et puis aussi récemment, vous avez fait paraître Paroles de sages chinois, c'était au Seuil en 2013, l'édit de Confucius, donc ça c'était en Pocket, Confucius préceptes de vie ainsi que Confucius et le confucianisme. Et puis vous pouvez aussi lire, chers auditeurs, les entretiens de Confucius Confucius, disponible en folio collection Sagesse.
Pute qui se veut chaste, sainte n'y touche, qui profère aux quatre vents que l'ardeur est un piège et la passion néfaste. Mes tapineurs fixent sur nos petits écrans, conseillant de couper les têtes qui dépassent pour que des féodaux restent les dominants. Sagesse,
je te hais. Sagesse, je te hais. Sagesse.
Ah, ne pas être sage, résister sans mollir, démasquer, s'indigner, désigner, réagir.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
N'interprétez jamais la maladie. Telle était la thèse de Susan Sontag dans son essai sur la maladie comme métaphore. Parce qu'il faut faire attention aux mots, ne transformez pas une chose en une autre, nous disait-elle, la maladie, c'est la maladie. Eh bien, il y a pourtant un acte médical qui procède exactement comme une métaphore, qui consiste précisément à transformer la maladie en autre chose qu'elle-même, c'est celui de la greffe. Entre la métaphore qui transporte le sens d'un mot à un autre et la greffe qui transplante un organe d'un corps à un autre, il y a comme un air de famille une curieuse analogie qui mérite qu'on s'y arrête. Et c'est ce que permet l'essai de Philippe Saint-Germain qui ausculte, comme le dit son titre, l'imaginaire de la greffe.
Parmi les nouvelles espérances données à l'homme, la plus grande n'est-elle pas de retrouver une part de sa jeunesse physique? Cette espérance, l'hétérogreffe nous la porte. Il s'agit donc pour nous de modifier biologiquement la nature de l'organisme destiné à recevoir des tissus vivants étrangers.
Le médecin du film Les yeux sans visage le dit bien, il s'agit avec la greffe de modifier la nature de l'organisme. Si l'essai ausculte ainsi l'imaginaire de la greffe, c'est-à-dire toutes ces images, ces fictions et mises en scène comme ce film, ou la figure de Frankenstein, ou encore le film d'Almodovar, La piel qu'habito, ce n'est donc pas pour tomber dans l'écueil que dénonçait Susan Sontag, celui de transformer une chose en une autre, mais il s'agit bien de saisir la greffe pour elle-même. Il s'agit par la mise en abîme des images d'en décrire le processus pour voir la manière dont elle agit juste comme métaphore, comme transport et transplantation et donc comme transformation. Est-ce encore mon corps? Est-ce encore moi lorsque je subis une greffe? Est-ce que je redeviens moi-même en étant réparé ou suis-je devenu un autre alors que mon corps est revenu à la normale? La greffe comme révélateur de nos transformations les plus intimes, la greffe comme métaphore, tel pourrait bien être le titre de cet essai.
Et ça me fait penser à l'essai de Jean-Luc Nancy, l'intrus qui raconte la greffe de son cœur.
Qui est cité, qui apparaît dans cet essai.
Ça ne m'étonne pas, rappelez-nous le titre.
De Philippe Saint-Germain, l'essai donc c'est l'imaginaire de la greffe et c'est paru aux éditions Libère.
Merci beaucoup Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée aux philosophies chinoises. Après le taoïsme, hier lundi, le confucianisme, aujourd'hui, demain, ce sera de bouddhisme que nous parlerons en compagnie d'Éric Romeluer, qui est enseignant bouddhiste dans la tradition zen. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous attendent indications bibliographiques, musicales, cinématographiques concernant l'émission du jour. Également téléchargement, podcast afin d'écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendent vos remarques et commentaires.